Avant d'écouter le texte de la prédication, nous prions encore. Dieu notre Père, accorde-nous d'être encore surpris par ton amour. Par ton esprit de sainteté, fais-nous connaître toujours plus la hauteur, la profondeur, la longueur et la largeur de ton amour en Jésus-Christ. Que nous puissions nous écrier comme Jésus, Abba, Père. Amen. Le texte de la prédication se trouve au psaume 122, cantique des montées de David. Je suis dans la joie quand on me dit: allons à la maison de l'Éternel. Nos pieds se sont arrêtés à tes portes, Jérusalem. Jérusalem, toi qui es bâtie comme une ville qui forme un ensemble bien uni. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, comme témoignage pour Israël, afin de célébrer le nom de l'Éternel. Car là sont installés les trônes pour le jugement, les trônes pour la maison de David. Demandez la paix de Jérusalem, qu'ils vivent tranquilles ceux qui t'aiment. Que la paix soit dans tes remparts et la tranquillité dans tes donjons. À cause de mes frères et de mes amis, je dirai donc que la paix soit en toi. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je recherche ton bonheur. Donc je vais prêcher verset par verset sur ce psaume. Ce psaume est un chant des degrés attribué à David. On appelle ainsi les chants qu'on chantait en arrivant au temple de Jérusalem, où il y avait des degrés, des escaliers à monter. Et ce psaume commence par ce verbe: je me réjouis. Je suis dans la joie. C'est également le premier mot que l'ange Gabriel adresse à Marie. Réjouis-toi. Souvent, dans la Bible, nous sommes invités à nous réjouir. L'apôtre Paul, par exemple, nous dit dans Philippiens 4, verset 4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Nous sommes invités à nous réjouir parce qu'il y a un motif pour se réjouir. Ce motif est indiqué dans ce psaume, c'est que le temple existe. Le temple, c'est le lieu de la présence de Dieu. Donc, réjouissons-nous, c'est possible de trouver la présence de Dieu. C'est possible, dans cette présence, d'être déchargé de nos fardeaux. C'est possible, dans cette présence, de ne plus être seul, dans cette marche vers le royaume de Dieu, mais entouré de frères et sœurs, d'amis, comme le dit ce psaume au verset 8. Et surtout d'être accompagné comme une ombre qui ne nous quitte jamais, le Seigneur qui est avec nous et qui fait fuir le chagrin. Jésus, avant de partir de ce monde, dans sa prière, dans sa dernière prière, dans Jean 17, a demandé que sa joie soit en nous, sa joie parfaite. Et il a fait ce qu'il fallait pour que sa joie soit en nous. Voilà donc le premier verbe, je me réjouis, je suis dans la joie. Et le psalmiste ajoute, en ceux qui me disent, allons à la maison du Seigneur. Frères et sœurs, nous avons depuis 3000 ans des gens qui nous disent, allons à la maison du Seigneur. Ça a commencé avec Abraham, qui est parti de son pays natal pour aller vers la cité dont Dieu est le constructeur et l'architecte, la Nouvelle Jérusalem, qui, d'après Hébreux 11, verset 11, est munie de fondations, une cité qui a pour architecte et constructeur Dieu lui-même. Et l'Apocalypse nous dit que ses fondations sont les 12 apôtres et les portes sont les 12 tribus d'Israël. Oui, depuis 3000 ans, il y en a qui nous disent « Montons à la maison du Seigneur ». Ça a commencé avec Abraham et ça continue avec les patriarches, les prophètes et tous les croyants. Puis avec Jésus qui nous parle sans cesse de son Père comme d'un lieu où il nous emmène, où il veut que nous soyons aussi. Puis cela a continué avec les apôtres, les premiers chrétiens qui ont accepté de tout perdre parce qu'ils avaient trouvé le lieu dont Jésus leur parlait. Le temple où Dieu réside, ils se sont mis en route vers ce lieu et rien ne les arrête plus dans cette marche vers la Jérusalem annoncée par Abraham, annoncée par les prophètes. Oui, tous ces témoins ont montré par leur vie que cette maison du Seigneur existe, qu'elle n'est pas hors d'atteinte, mais que nous pouvons y aller avec eux. Ils sont toujours vivants. Ils sont vivants pour Dieu. Ils font partie de l'Église du ciel, l'Église qui voit Dieu et l'agneau sur le trône. Et qui les voit donc sur le trône, dirigeant l'humanité, dirigeant l'univers. Nous nous réjouissons dans ces témoins. Je me réjouis en ceux qui me disent « Allons à la maison du Seigneur ». Ils ont laissé leur témoignage. Qu'ils ont dit, ils l'ont laissé, ça a été écrit dans la Bible, et nous sommes leurs contemporains, ils nous regardent, nous qui sommes arrivés à la fin des temps, pour nous encourager à aller comme eux vers la maison du Seigneur, vers la Jérusalem céleste. Nous passons au verset 2, nos pieds se sont arrêtés dans tes portes, Jérusalem. Saint Augustin dit qu'il faut marquer un temps d'arrêt. Quand on arrive à Jérusalem, on n'y entre pas n'importe comment. Il dit que seuls les miséricordieux y entrent. Et un jugement se passe au moment où nous posons nos pieds à l'entrée de Jérusalem. Avons-nous été miséricordieux? Le jugement est sans miséricorde pour ceux qui n'ont pas fait miséricorde. Ceux qui se sont refusés à exercer la miséricorde sur terre. Cette miséricorde dont ils ont pourtant été bénéficiaires par Jésus-Christ, ben ceux-là n'entreront pas dans la Jérusalem céleste. Ils se sont eux-mêmes jugés indignes d'entrer dans Jérusalem. N'entrent dans Jérusalem que les miséricordieux, ceux qui ont vécu de la miséricorde du Seigneur et qui n'en ont pas été chiches vis-à-vis de leurs frères. Verset 3. Jérusalem l'a construite comme une ville liée à elle-même, toute ensemble. C'est du charabian, mais c'est la traduction littérale de l'hébreu. Jérusalem l'a construite comme une ville qui est liée à elle-même ensemble. Mais cette traduction littérale nous aide à comprendre qu'il y a là un profond mystère. Quand on saisit une partie de Jérusalem, on saisit le tout. Quand vous connaissez une chose sur Jésus, vous êtes associé à l'ensemble, car Jésus, nous n'avons jamais fini de le connaître. Et pourtant, vous connaissez une seule chose sur lui, eh bien vous tenez déjà Jésus tout entier. Jérusalem, elle aussi, est ensemble, elle est unie. Ce n'est pas le cas actuellement, car il y a la Jérusalem dans le ciel, la Jérusalem sur terre, et ce n'est pas la même chose. Mais cette unité, nous la voyons déjà manifestée actuellement dans des groupes de prière à Jérusalem, où Arabes et Juifs qui croient en Jésus louent ensemble leur Sauveur et leur Seigneur, l'adorent en esprit et en vérité. Car Jésus est celui qui fait tenir ensemble cette Jérusalem où il se trouve et il va bientôt manifester son règne aussi dans Jérusalem sur terre. C'est pourquoi nous voyons actuellement les nations s'agiter. Elles ne veulent pas de ce règne du prince de la paix, crucifié pour nos péchés, ressuscité pour notre justification à Jérusalem. Ce qui fait le ciment qui tient Jérusalem ensemble, c'est celui qui y est mort et ressuscité, et qui a dit qu'il y reviendra. Voilà le sens de l'avant, la période de quatre dimanches avant Noël dans laquelle nous sommes entrés. C'est pourquoi nous avons deux bougies allumées aujourd'hui. Avant, c'est une abréviation du mot avènement, la venue de Jésus à Jérusalem, la venue de Jésus dans son peuple. Ce qui fait la consistance de Jérusalem, son unité indestructible, c'est l'unité du Dieu d'Israël. Il est un. Il est un. Jésus-Christ est un en étant un avec son Père. Cette unité, il a dit, elle est indestructible. Et Jésus a prié pour que cette unité, nous y participions. C'est sa prière dans Jean 17, verset 11, à son Père. Pour nous, les croyants, il demande qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi, Jésus, et toi, le Père, comme nous sommes un, qu'ils soient un en nous, eux aussi. Et est-ce que cette prière ne serait-elle pas exaucée? Jésus est toujours exaucé par son Père. Jérusalem l'a construite comme une ville qui est liée à elle-même, ensemble. Quel que soit l'aspect que nous découvrons de Jésus dans la prière, par la révélation de l'Esprit-Saint, cet aspect de Jésus est lié à tous les autres aspects de Jésus, car il est un, il n'est pas dispersé, il est un avec son Père. Et nous n'aurons jamais fini de découvrir la richesse de cette unité à laquelle nous sommes participants par l'action de Jésus, donnant sa vie et donnant l'Esprit de Dieu. Verset 4. Que là-bas sont montées des tribus. Les tribus de Yah, un témoignage à Israël pour louer le nom du Seigneur. Que faisaient les tribus d'Israël montant à Jérusalem au temple? Le Deutéronome mentionne la raison de ce pèlerinage à Jérusalem trois fois par an. Chaque homme masculin sera vu à la face du Seigneur ton Dieu dans le lieu qu'il aura choisi. Deutéronome 16, verset 16. Les tribus allaient voir le Seigneur. On peut aussi dire pour être vu par le Seigneur dans son temple à Jérusalem. Il n'y avait pourtant aucune image, aucune statue de Dieu dans le temple. Le Dieu vivant n'a pas besoin de cela. Seul le Dieu vivant se donne à voir au temple. Le Dieu vivant est le contraire d'une statue ou d'une image faite par les hommes. Il est celui qui nous a fait et qui peut se faire voir à nous par sa parole, par ses actes, par ses guérisons, par la joie dont nous parlions au début de ce psaume. Dieu, nul ne l'a jamais vu, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui en a fait l'exégèse. Ça, c'est la traduction de Jean 1, verset 18. Et tout être humain, homme ou femme, qui venait à Jésus faisait l'expérience d'être vu par le Dieu vivant. Le Dieu vivant qui fait vivre ce qu'il regarde, qui ressuscite ce qui est mort, qui désaltère l'âme assoiffée, qui guérit l'handicapé ou le malade. Il n'y avait dans le temple de Jérusalem aucun malade, aucun handicapé. Le Seigneur est celui qui te guérit, dit la Bible. Dans les plaies de Jésus se trouve notre guérison. Dans son cœur transpercé se trouve la guérison de notre cœur. De son côté percé sortent l'eau et le sang pour notre pardon et notre vie. Saint Augustin a cette curieuse interprétation du mot hébreu Israël. Selon lui, Israël veut dire « Dieu est celui qui voit ». Voilà le témoignage à Israël qui est donné dans le temple de Jérusalem. Le Seigneur est celui qui nous voit dans notre souffrance, dans notre mort. Et il nous fait vivre. Il nous fait vivre. Alléluia! Dans Alléluia, vous avez justement ce mot que vous avez dans ce verset, Yah, abréviation du nom imprononçable de Dieu vivant d'Israël, les tribus de Yah. Nous sommes tous ensemble devenus des tribus de Yah par le témoignage de Jésus, fils de David. Verset 5. Car là-bas se trouvent des trônes pour du droit, des trônes pour la maison de David. Le droit, c'est ce qui fait vivre, d'après la Bible. Le droit est nécessaire pour réfuter les fausses conceptions de l'amour. Dieu seul peut nous donner la notice d'utilisation de l'humanité qu'il a créée. Seul le fabricant peut vraiment nous donner la notice d'utilisation de l'appareil que nous avons acheté chez un commerçant. Eh bien, nous qui sommes fabriqués par Dieu, c'est lui seul qui peut nous donner la notice d'utilisation de l'humanité que nous formons. Sinon, nous nous fourvoyons dans une utilisation inadéquate de notre humanité et nous travaillons à sa destruction. À Jérusalem se trouvent non seulement des trônes pour le droit, mais donc des trônes pour nous diriger dans notre vie, que nous ne savons pas diriger par nous-mêmes, mais aussi des trônes pour la maison de David. Car avec le droit, il faut une force pour faire appliquer le droit. Et cette force, en ce qui concerne le droit de Dieu, c'est la résurrection du fils de David. Saint Augustin interprète en nous disant « Si tu n'arrives pas en toi-même à faire les commandements de Dieu, aime Jésus et tu feras en lui ces commandements que tu n'arrives pas à faire en toi-même. » Je répète cette phrase de Saint Augustin « Si tu n'arrives pas en toi-même à faire les commandements de Dieu, aime Jésus, et tu feras en lui ces commandements que tu n'arriveras pas à faire en toi-même. » Que tu n'arrives pas à faire en toi-même. Voilà ce que dit ce verset, des trônes pour du droit, des trônes pour la maison de David. C'est ce qui nous attire à Jérusalem. Versets 6 à 8, « Demandez paix, Jérusalem, qu'ils soient en paix tes amis, que la paix soit dans ta douleur d'accouchement, la sérénité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes proches, je parlerai donc paix en toi. » Trois fois le mot paix dans ces versets, avec des verbes qui expriment la même chose. Quiconque s'approche de Jérusalem entre dans le monde de la prière. Aussi, Jésus a ouvert pour les siens sa propre prière. Il priait beaucoup, souvent, longtemps, et toute son action en découlait. Jésus a prié pour Jérusalem. La prière a commencé avant nous et continuera après que nous ne serons plus de ce monde. C'est la prière pour la paix, car Jérusalem est en deuil encore aujourd'hui. Jérusalem pleure, Jérusalem souffre d'avoir perdu ses enfants, Jérusalem a besoin d'être épousée par ses enfants, c'est le Messie qui fera cela, le Messie qui est issu de Sion, de la lignée de David. C'est tout le témoignage que nous donnent les évangiles et l'Apocalypse concernant Jésus. Il est la lignée de David. Il épouse Jérusalem. C'est pourquoi au mariage à Cana, il transforme l'eau en vin. Le mariage de Jérusalem est arrivé. Elle aura des enfants grâce à son Messie qui est en son sein. C'est le sens de Noël. Noël veut dire nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance se fait à Jérusalem, qui est encore dans les douleurs de l'accouchement. L'Église, tous les croyants sont dans les douleurs de l'accouchement actuellement. 200 millions de chrétiens sont persécutés actuellement. Le monde s'oppose à cet accouchement. Le Messie Jésus vient à nouveau dans sa capitale, Jérusalem. Il viendra dans sa gloire. Persévérons dans la foi, tenons ferme notre espérance. Que la paix soit dans ta douleur d'accouchement. Et dernier verset, le verset 9, « À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je demanderai du bien ou du bonheur pour toi. » Cette maison non construite de main d'homme, construite par le Seigneur Dieu, nous en faisons partie par le Messie, Jésus, fils de David. Laissons-nous construire par son esprit dans ce temps, entre la première venue du Messie à Jérusalem et sa seconde venue. Amen.